Si vous souhaitez tout savoir sur votre année de naissance, retrouvez-nous pour quelques émissions sur les années anniversaires commentées par Jean Saraméa, historien géographe retraité. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus en cette année 2022.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mystère. Nous avons le plaisir de retrouver Jean Saraméa pour nos années anniversaires. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être dans ce rendez-vous historique et culturel. Alors, un bon anniversaire pour toutes celles et ceux qui viennent d'avoir ou vont avoir 80 ans.
Eh ben dis donc, 80 ans.
Et 1942. Alors, 1942, on est évidemment au milieu de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'apogée de l'Axe. Je rappelle que l'Axe, c'est le Japon, nationaliste et militariste, c'est l'Italie fasciste, Mussolini, et l'Allemagne nazie, Hitler. Cet apogée de l'Axe, eh bien, il y a au partir du printemps et de l'été une grande offensive allemande dans le sud de l'Union soviétique, et les troupes allemandes vont arriver jusqu'au Caucase. Le but pour elles, évidemment, de contrôler les puits de pétrole du Caucase. Ils sont arrivés quasiment à proximité de ces puits de pétrole que Staline avait donné l'ordre de brûler et de détruire, parce que c'était l'enjeu, bien sûr, l'enjeu de la guerre. Le camp qui contrôlerait l'approvisionnement pétrolier serait évidemment largement avantagé. C'est également l'offensive italienne en Libye qui va être soutenue militairement par l'Africa Corps, les troupes allemandes de Rommel, qui vont repousser les Britanniques presque jusqu'au Caire. Alexandrie va même être menacée. Or, stratégiquement, c'est terrible, parce que si les Italo-Allemands prennent le canal de Suez, c'est le contrôle de quasiment toute la Méditerranée et le contrôle d'un axe commercial et militaire majeur sur la planète. C'est le lien entre le Royaume-Uni et les points d'appui stratégiques de l'Empire britannique. 1942, en Asie, ben c'est le déferlement de l'armée nippone, de l'armée japonaise. Les Japonais prennent les Philippines, les îles néerlandaises, c'est l'Indonésie actuelle, prennent la Malaisie, prennent Singapour. Il paraît que c'est une des très rares fois dans sa vie où Churchill a pleuré. Parce que c'était le grand point d'appui militaire britannique, que Singapour est à la charnière de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Les Japonais prennent la Birmanie, ils vont bombarder des villes à Ceylan, ils vont menacer le nord de l'Australie, et les Américains sont bien entrés en guerre en décembre 41, mais leur flotte est très limitée. Ils doivent mettre en place une industrie de guerre pour produire de façon massive des avions, des bateaux, des chars, des munitions. Mais il faudra un an et demi. Les Américains ne seront pas opérationnels avant mi-43 ou fin 43. Et là, ce sont les forces britanniques qui prennent de plein fouet les offensives de l'Axe. Plus la Chine qui est toujours grignotée par l'armée japonaise. Ce n'est qu'à la fin de l'année, à partir de octobre-novembre 43, que les alliés mettent des coups d'arrêt. Mais ce ne sont que des coups d'arrêt, ce ne sont pas encore des victoires. Des coups d'arrêt à l'expansion de l'Axe. C'est à la bataille de Midway que les Américains vont sauver Hawaï, en définitive, et vont limiter l'expansion japonaise vers l'Est. C'est le début, à la fin de l'année, de la bataille de Stalingrad, mais personne n'imagine encore que l'armée allemande va être battue à la fin janvier 1943. C'est la bataille de Guadalcanal qui va à l'Est de l'Indonésie, qui va sauver l'Australie de l'invasion japonaise. Ce sont des troupes américaines pour l'essentiel. c'est l'aide des alliés à la Chine qui va ralentir la conquête japonaise, et c'est la bataille d'El Alamein où les Britanniques vont sauver l'Égypte, en définitive sauver le canal de Suez et reprendre un léger avantage en Libye. C'est également, et ça va être commémoré le 10 juillet France, c'est la bataille de Bir Hakeim, où les forces françaises libres qui viennent du Gabon et du Tchad, qui ont traversé le désert, vont permettre, en tenant pendant des jours et des jours ce point d'appui dans le désert libyen, vont permettre à l'armée britannique de se réorganiser. Donc c'est une année extrêmement difficile. Alors en France, c'est le gouvernement Darlan puis Laval sous la direction du maréchal Pétain, donc à Vichy. C'est au mois de juillet la rafle du Belvif. Le maréchal Pétain avait bien dit qu'il protégeait la France et les Français, mais il n'y a pas que les Juifs étrangers qui sont raflés en ce mois de juillet et août 42. Il y a aussi beaucoup, il y a les Juifs étrangers, mais aussi beaucoup de Juifs français, y compris en zone non encore occupée. Alors justement, au mois de novembre, les alliés anglo-américains débarquent à Alger et à Casablanca, et ils vont s'installer, pas être opérationnels sur le plan militaire tout de suite, mais enfin ils vont s'installer en Afrique du Nord française, ce qui provoque l'invasion de la zone non occupée par l'armée allemande. Donc à partir de fin novembre 1942, toute la France est occupée et doit payer au titre des frais d'occupation 500 millions de francs par jour à l'Allemagne.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est ce qui permet à l'Allemagne d'acheter, en pillant peut-être un peu moins, mais d'acheter les produits industriels, les produits agricoles, etc., fait que le rationnement en France est beaucoup plus dramatique. C'est cette année-là également que Hitler décide d'incorporer dans l'armée allemande les jeunes Alsaciens et les jeunes Mosellans. Hitler avait annexé l'Alsace et la Moselle en violation des conditions d'armistice, puisque l'armistice n'avait jamais prévu la perte pour la France de l'Alsace et de la Moselle, ce qui est le cas. Et les jeunes vont être enrôlés de force avec menace sur leur famille s'ils ne se rendent pas à l'armée allemande, et ils vont être envoyés sur le front russe majoritairement, ce qui est absolument dramatique pour eux. Donc c'est une année extrêmement grave sur le plan intérieur sur la vie des Français. Le seul point, entre guillemets, positif, c'est que l'invasion de la zone non occupée, de la zone sud, va mettre fin à la ligne de démarcation, puisqu'il n'y en a plus besoin, puisque toute la France est occupée. Il n'y aura plus, ce soir, en février 43, la ligne de démarcation. Et, alors, pour ici, c'est-à-dire pour tout ce qui est à l'est du Rhône, sauf Toulon, Marseille, tout ce qui est à l'est du Rhône va être occupé par l'armée italienne.
Heureusement qu'ils sont là, finalement, les Italiens.
Voilà. Et l'armée italienne qui ne va pas laisser un souvenir dramatique, et qui va, et c'est assez original et peu connu, qui va protéger les Juifs français et étrangers, et interdire même à la police française de les arrêter. Alors les historiens ont cherché pourquoi. C'est pas une décision de Mussolini, c'est pas une décision du roi d'Italie. Ce sont les généraux italiens qui avaient vu, puisqu'ils étaient aux côtés de l'armée allemande, ils avaient vu ce qui se passait en Union soviétique. Ils savaient à peu près ce qui se passait dans la partie est de l'Europe pour les Juifs qui étaient déportés. Et mettaient en quelque sorte leur point d'honneur à ne pas obéir à l'armée allemande. Néanmoins, c'était une armée avec la police fasciste, hein, les opposants à l'occupation italienne ou des personnes fichées communistes ou socialistes sont arrêtées par l'OPRA, qui est la police fasciste, mais pas directement, en général, l'armée italienne. L'armée italienne va rester jusque début septembre 1943. Alors, sur le plan technique, Werner von Braun, l'ingénieur allemand, crée les premières fusées, vont être appelées les V2, à partir de 43-44, mais la création c'est en 42. Et de l'autre côté de l'Atlantique, un célèbre ingénieur italien, Enrico Fermi, qui était parti pour ne pas vivre dans l'Italie fasciste, va créer la première pile atomique qui va permettre ensuite les recherches suffisamment avancées pour créer la première bombe atomique américaine en 1945. Et puis, côté allemand, à nouveau, c'est la mise au point des premiers avions à réaction. Il n'y aura pas d'avions à réaction chez les alliés. Les Américains, les Anglais n'auront pas, en 1945-1946, d'avions à réaction. C'est la firme Junker qui met au point, évidemment, si l'Allemagne avait pu en fabriquer beaucoup, et surtout si elle avait eu de l'essence, ça aurait été, l'aviation allemande aurait surclassé l'aviation des alliés. Mais Hitler manquera d'essence, puisqu'il n'arrivera pas jusqu'au puits de pétrole du Caucase.
Heureusement, finalement.
Et oui, donc ça, un conflit se joue quelquefois assez loin. Sur le plan culturel, eh bien, le célèbre poète Paul Éluard va diffuser son poème, son long poème, qui est un hymne à la liberté, « J'écris ton nom, liberté », qui sera repris, bien sûr, à la BBC et qui sera écouté dans l'Europe. Monterland, le dramaturge, fait jouer la Reine Morte. Aragon publie Les yeux d'Elsa, où il y a également pas mal de poèmes qui font allusion à la résistance. Le philosophe français Gaston Bachelard publie La psychanalyse du feu, qui est un ouvrage très intéressant. Albert Camus fait paraître L'étranger, en 1942. L'écrivain résistant Vercors, c'est un pseudonyme, fait paraître Le silence de la mer, qui valorise, disons, la résistance à une hégémonie culturelle allemande en Europe, et pour les régions de montagne, mais pas seulement, Roger Frison-Roche écrit Premier de cordée. Ça va être un roman très lu, passionnant, sur la conquête de hautes altitudes, la solidarité à la vie et à la mort des cordées. Au niveau international, eh bien, les États-Unis sortent le film Bambi. Cette année-là, qui évidemment n'est pas projetable en Europe. Marcel Carné sort un film emblématique, Les Visiteurs du Soir. Les Visiteurs du Soir, qui est vraiment un grand titre de la cinémathèque française. Alors, au niveau des chansons, eh bien, les radios du monde entier donnent Lili Marley. Alors, Lili Marley, qui raconte tout simplement les regrets de soldats d'être loin de leur bien-aimé, c'est une chanson qui date de 1916 et qui a été imaginée et créée par des soldats autrichiens qui étaient dans les Balkans et qui pensaient à leur village d'Autriche et à la fiancée qu'ils avaient laissée. Sauf qu'en 1916, il n'y avait pas de radio. Donc la chanson n'était connue que dans l'armée autrichienne, puis un petit peu dans les Balkans, sans plus. Là, avec la radio, chez les alliés, on écoute Lili Marley en anglais, que ce soit les troupes américaines ou anglaises, parce que c'est un thème universel, c'est pas seulement une chanson d'origine Europe centrale ou allemande. Dans les troupes italiennes, on écoute Lili Marley en italien. En France, presque tous les jours, la radio passe Lili Marley en français. Et ça devient un tube mondial, même si c'est quand même connoté, peut-être pas une chanson militaire, mais enfin, bon, devant la caserne, etc. Traîné va chanter Verlaine, bon, un petit peu pour sourire, même si le film est très daté. On va écouter Fernandel, qui chante « On m'appelle Simplet, l'innocent du village. Il est évident que pour qu'un film sorte dans la France occupée, il ne fallait pas qu'il y ait d'allusion ni à la politique, ni à l'Allemagne, ni à la résistance. Donc là, c'était des thèmes tout à fait anodins. Une vie villageoise très traditionnelle où l'innocent va attirer la sympathie. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Jean.
Les oiseaux sont mes confidents, et quand je siffle entre mes dents, ils me comprennent tous ensemble. Ils sont plus sensibles à mes mots, pour n'être que des animaux, ils sont moins bêtes que les hommes. Voilà pourquoi autour de moi, faisant la joie des villageois, d'un sobriquet on me prénomme, toujours en me montrant du doigt. Avec un petit air narquois, on m'appelle le simplet, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. Mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet. On me prend pour un grand enfant, on est pour moi très indulgent. Tous mes péchés, on les pardonne. Je conjure le mauvais sort, ma présence est un réconfort, c'est un peu de joie que je donne. Et c'est ainsi que sans souci, sûr et hardi, dans mon midi, j'ai grandi de façon bouffonne. Si je n'ai pas beaucoup d'esprit, au fond vous m'en voyez ravi. On m'appelle Simplet, l'innocent du village, tout comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement, moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa, je garde son secret. C'est mon seul héritage, mon bonheur est complet, on m'appelle Simplet.